Le pays a besoin d'expériences hardies. Avant tout, il faut essayer quelque chose. La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même. Extrait d'un discours de Franklin Delano Roosevelt lors de la campagne électorale de 1932.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Quand Franklin Delano Roosevelt est élu président des États-Unis en novembre 1932, il acquiert le pouvoir dans un pays en crise profonde. Le krach d'octobre 1929 a provoqué une catastrophe économique qui touche tous les secteurs de la société et de l'économie américaine. Le chômage s'étend à la fin de 1932 à officiellement près de 14 millions de personnes. Mais en fait, c'est sans doute une vingtaine de millions qui sont touchés par ce fléau. De très nombreuses banques sont fermées, les industries tournent à peu de régime et les campagnes sont également touchées par une très forte surproduction. Ainsi, Roosevelt, le démocrate, apparaît comme la dernière chance pour un pays qui, après l'euphorie des années 20, est tombé dans une crise morale et économique profonde. Peu d'hommes ont été ainsi chargés des espoirs de tout un peuple. Franklin Delano Roosevelt est né en 1882 dans une famille de la haute bourgeoisie. Il fait de brillantes études à Harvard et devient avocat. En 1910, il est élu sénateur démocrate de l'État de New York, puis sous-secrétaire d'État à la Marine pendant la Première Guerre mondiale. En 1920, il se retire un peu de la vie politique dans la mesure où les Républicains ont gagné les élections. Cependant, une épreuve l'attend et le frappe l'année suivante. Il est atteint de poliomyélite et reste paralysé, des hanches jusqu'aux pieds. Il a 39 ans. Pendant plusieurs mois, il lutte et apprend à marcher, à se tenir debout, à faire quelques pas appuyés sur deux cannes. Il s'est indéniablement forgé une véritable volonté face à l'adversité. En 1928, il est élu gouverneur de New York et est investi pour les élections de 1932 par le Parti démocrate. Il remporte les élections assez facilement contre le président Hoover, qui avait été évidemment déconsidéré par le choc de la crise de 1929. Il réussit à se présenter comme un homme désireux de convaincre. Il a la voix agréable à la radio, il a un rire communicatif et il veut faire pénétrer dans le cœur des Américains, depuis l'intimité de la Maison-Blanche, une volonté de changement et un optimisme que beaucoup d'Américains avaient véritablement perdu. Comme disait un de ses conseillers, Roosevelt est sans doute le plus compliqué personnage politique que j'ai jamais connu. En effet, il est à la fois capable de sautes d'humeur et de grandes amitiés, capable de mesquinerie et de charité, mais en tout cas, il a indéniablement la volonté de redonner au peuple américain la capacité de croire en lui-même. Il lui faut trouver les moyens pour essayer de relancer une économie complètement atone. Il s'est entouré d'un brain trust, c'est-à-dire d'un trust des cerveaux, d'un groupe de jeunes ou parfois moins jeunes conseillers, dont le financier Bernard Baruch. En trois mois, entre mars et juin 1933, il va faire voter plus de textes législatifs que Hoover en quatre ans. Pour lui, il s'agit bien d'une nouvelle donne, un New Deal, pour redonner confiance aux Américains. Le New Deal peut être décomposé en plusieurs types de mesures. D'abord, les mesures financières. Elles sont les premières. Face au nombre de banques fermées pour banqueroute, il faut donc redonner de la liquidité sur le marché financier américain. Roosevelt fait réquisitionner l'or et surtout le Congrès lui donne le droit de dévaluer le dollar, à condition que le poids nouveau ne soit pas inférieur à 50% de l'ancien. Ainsi, on réinjecte de la liquidité sur le marché américain et les banques d'État et les banques fédérales peuvent progressivement réouvrir leurs portes. Ensuite, les mesures sociales. Elles sont évidemment extrêmement urgentes au regard de la situation du chômage dans le pays. Le gouvernement fédéral met 500 millions de dollars à la disposition des États pour aider les chômeurs et crée un office fédéral d'assistance qui distribue aux plus nécessiteux une série d'aides afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. D'autre part, il construit des écoles, met sur pied des 12 000 km de canalisation, construit 469 aéroports, assure la réfection ou la création de 400 000 km de routes. Ainsi, par ces grands travaux, c'est une première attaque contre le chômage de masse. De même, il y a la Tennessee Valley Authority, c'est-à-dire les grands travaux que la vallée du Tennessee connaît afin de donner des heures de travail aux chômeurs. Ainsi, pendant l'hiver 33-34, 20 millions de personnes ont pu bénéficier de ces aides diverses. Ensuite, il y a les mesures agricoles. Comme beaucoup d'agriculture, l'agriculture américaine devait faire face à un phénomène de surproduction. Ainsi, le 12 mai 1933, l'Agricultural Adjustment Act est signé. Il entend rétablir l'équilibre rompu entre les prix agricoles trop bas et les autres produits et relever la condition des cultivateurs. Pour augmenter le prix des denrées agricoles, le gouvernement encourage les agriculteurs à réduire la production, puisqu'on était face à une situation de surproduction. Des taxes payées par le consommateur viennent récompenser les paysans qui transforment certains produits. De même, des indemnités sont données à ceux qui laissent une partie de leur champ en friche et renoncent à une partie de leur cheptel. Enfin, des mesures industrielles et sociales sont signées le 16 juin 1933 dans le National Industrial Recovery Act. Celui-ci a un double aspect. D'abord, il dote chaque industrie d'une véritable charte. Chaque industrie doit supprimer la concurrence ruineuse et interdire de vendre au-dessus du prix de revient. Sur le plan social, la journée de travail est réduite. C'est une manière de lutter, pense-t-on, contre le chômage, et un salaire minimum est garanti, ce qui permet ainsi aux plus indigents d'avoir au moins le minimum pour vivre. Pour diriger cette immense œuvre de reconstruction, le président a désigné un général à la retraite, le général Johnson, très lié à Bernard Baruch, le financier. Ainsi, une intense propagande est faite dans tout le pays par 1 500 000 volontaires. Le public est invité à donner de préférence à toutes les entreprises qui ont adhéré à un code. Mais cette politique du New Deal ne manque pas d'avoir quelques résistances. D'abord, dans les milieux agricoles. Pour beaucoup de cultures, les surfaces ont bien été diminuées, mais les agriculteurs ont essayé d'augmenter les rendements, ce qui fait que cela faussait en partie la lutte contre la surproduction. Les prix augmentent, mais beaucoup de métayers sont renvoyés par les propriétaires et deviennent donc des chômeurs mécontents. C'est ce que peindra Steinbeck dans son roman « Les raisins de la colère » en 1939. Ensuite, les patrons, revigorés par l'amélioration économique qui commence à voir légèrement le jour à partir de 1934-1935, s'efforcent de ne pas respecter les clauses sociales proposées par le gouvernement fédéral. Aussi y a-t-il des conflits sociaux assez importants et le sénateur Robert Wagner fait voter le 5 juillet 1935 une loi qui reconnaît de nouveaux droits aux ouvriers face au patronat américain. Ensuite, il y a des difficultés politiques. La Cour suprême, composée de 9 juges inamovibles, a été nommée par les républicains au pouvoir entre 1920 et 1932. Ces juges s'opposent à une partie des formules décidées par Roosevelt dans le cadre du New Deal. Ainsi, une partie des lois de la National Industrial Recovery Act sont déclarées illégales, ainsi qu'une partie des décisions prises en matière agricole. La décision de la Cour suprême tombe le 6 janvier 1936. Néanmoins, Roosevelt obtient des succès. D'abord, un succès politique. Le 5 novembre 1936, il est réélu aisément par 28 millions de voix contre un peu moins de 17 millions à son adversaire républicain. Qui plus est, la mort l'oblige à remplacer des membres de la Cour suprême et il va nommer de nouveaux juges plus favorables à sa cause politique. De plus, la Cour suprême, après sa réélection, ose moins s'opposer à la décision présidentielle. Ce qui fait que cette politique, qui avait été une politique d'obstruction en 1934-35, tend à s'assouplir à partir de 1936. En fait, les Américains ont une réelle reconnaissance à Roosevelt pour avoir, pour la première fois de leur histoire, confié à un président qui intervient véritablement dans la chose économique. Et d'ailleurs, en 1940 comme en 1944, mais là, dans le cadre de la guerre, le peuple américain confiera deux nouveaux mandats à Franklin Delano Roosevelt.